C'est le premier rendez-vous d'information avec ce matin Thomas Larabie. Bonjour Thomas.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Les Gilets jaunes célèbrent aujourd'hui leur premier anniversaire. Et s'ils ne sont plus aussi visibles dans la rue, ils n'ont pas dit leur dernier mot et entendent bien le prouver ce week-end. Depuis un an, les éléments de réponse apportés par l'exécutif n'ont pas suffi à calmer leur colère. Le président et le gouvernement ont-ils pris la mesure politique de ce mécontentement? Éléments de réponse avec Rosalie Lafarge.
L'exécutif l'assure, des leçons politiques tirées des gilets jaunes, il y en a. Ce sont les gilets jaunes qui ont mené au grand débat, qui a lui-même emmené le président vers ce qu'il appelle l'acte 2 de son quinquennat. Plus d'écoute, plus de concertation, plus de compréhension, plus d'humanité, c'est la promesse. Mais pas au prix de l'immobilisme, précise le chef de l'État qui entend bien poursuivre ses réformes. Le problème pour Emmanuel Macron et le gouvernement, c'est que les Français ont un peu de mal à percevoir les effets des réponses apportées à la crise, en matière de pouvoir d'achat notamment, et que côté concertation, là non plus, les résultats ne sont pas perceptibles par tous. Le Sénat a encore dénoncé le mépris présidentiel cette semaine. Et puis les foyers de contestation sont multiples. On le voit à l'hôpital, chez les pompiers, les policiers, les étudiants, les fonctionnaires. Les braises sont chaudes et menacent de ne former plus qu'un feu. Peut-être le 5 décembre, journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Alors l'exécutif tente des gestes pour apaiser. Un peu plus de souplesse sur les retraites, justement. L'arrêt du projet Europa City, bête noire des écologistes. Pour autant, pas question de céder sur tous les fronts. Interrogé en fin de semaine, par exemple, sur la possibilité d'augmenter les bases des taxes foncières, Emmanuel Macron a écarté l'option d'une réforme qui ferait, selon lui, des perdants. Personne ne la portera sauf Bibi, a ironisé le président, avant d'ajouter, Bibi, il en a déjà assez pris.
Les explications de Rosalie Lafarge. Et ce 53e samedi des Gilets jaunes suscite une effervescence que l'on n'avait pas vue depuis longtemps, au moins sur les réseaux sociaux. Plus de 200 actions, tractages, manifestations, occupations de ronds-points ont été programmées, tout le week-end et sur tout le territoire. L'Assemblée fait machine arrière sur l'huile de palme. Les députés se sont repenchés hier soir sur un amendement adopté en catimini jeudi. Ce texte prolongeait les avantages fiscaux liés à l'utilisation de l'huile de palme dans les biocarburants. Un texte jugé très favorable à Total et à sa bioraffinerie de Lamed dans les Bouches-du-Rhône. Justine Leclerc a suivi cette séance de rétropédalage.
Tour à tour, les différents groupes politiques ont pris la parole. L'ancienne ministre de l'écologie, Delphine Batho, n'a pas mâché ses mots.
Cette niche fiscale, elle est directement en fait complice d'un écocide, qu'il n'y a pas que l'Amazonie qui brûle aujourd'hui, il y a aussi l'Indonésie. 90% de la population des orangs-outans ont été, on pourrait quasiment dire, exterminés. Donc on ne peut pas soutenir ça.
Le député des Bouches-du-Rhône, Mohamed Lakhila, a lui justifié la prolongation de la niche fiscale pour l'huile de palme dans les agrocarburants, défendant la raffinerie totale de son territoire.
Ceux qui penseraient que je défends l'huile de palme, je vous dis, vous vous trompez. Mais la responsabilité que commande notre fonction de député, mes chers collègues, c'est d'allier à la passion la raison. Comment, mes chers collègues, comment pouvons-nous raisonnablement mettre en péril notre industrie pendant que partout ailleurs, en Europe, on l'encourage.
La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, a expliqué qu'il fallait laisser du temps et accompagner Total vers l'abandon de l'huile de palme. Un avis non pris en compte par les députés, y compris ceux de la majorité.
Voici le résultat du scrutin. Pour 2 contre 58. L'article 72 quater est donc rejeté.
Un reportage de Justine Leclerc à l'Assemblée. La dernière fabrique de charentaises en Charente va fermer. Le tribunal de commerce d'Angoulême a prononcé hier la liquidation judiciaire de la manufacture charentaise à Rivière. Une fermeture qui laisse 104 salariés sur le carreau. En Bolivie, 5 paysans favorables au président déchu Evo Morales ont été tués hier soir lors d'affrontements avec la police et l'armée. La Commission interaméricaine des droits humains, la CIDH, dénonce l'usage disproportionné d'armes à feu. De son côté, la nouvelle dirigeante Jeanine Agnès hausse le ton contre son prédécesseur en exil au Mexique, le menaçant de poursuites s'il revenait dans son pays. Nouvelle alerte météo à Venise après une semaine d'inondations record. La ville se prépare à une nouvelle journée difficile. Hier, un pic de marée haute a contraint les autorités à décréter l'état d'urgence dans la cité des Doges et à fermer la place Saint-Marc une partie de la journée. Nous reviendrons à 8h sur la solidarité internationale qui tarde à s'organiser. Et puis deux roquettes tirées cette nuit en direction d'Israël pourraient fragiliser la trêve à Gaza. Cette trêve avait mis fin à 2 jours d'affrontements sans précédent depuis plusieurs mois, faisant 34 morts côté palestinien, dont la moitié sont des civils. Un mot de la météo en France, et pour dire que hier soir, près de 200 000 foyers restaient privés d'électricité après d'importantes chutes de neige en Rhône-Alpes, qui ont causé la mort d'un automobiliste et perturbé le trafic. Ce matin, de la pluie pour tout le monde, à l'exception du Grand Est, de la vallée du Rhône et surtout du pourtour méditerranéen. Les températures comptaient 6 à Lille jusqu'à 13 à Marseille. Et puis à partir de midi, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont sont placés en vigilance orange pour pluie et inondation par Météo France.